Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Un dimanche empreint d'émotions et de prises de parole fortes pour le pape François en déplacement à Cagliari en Sardaigne. Une visite fortement marquée par les questions sociales et en particulier par la crise de l'emploi. Le Saint-Père est sorti plusieurs fois de son texte pour exprimer sa sollicitude et interpeller les responsables. C'est bien sûr la une de ce magazine, mais nous évoquerons également l'attaque meurtrière menée contre une église au Pakistan et en fin d'émission, entretien avec un professeur de phénoménologie de la religion. Après Lampedusa début juillet, le pape François a effectué ce dimanche un deuxième déplacement en Italie. Encore une fois, c'est dans une île qu'il s'est rendu, la Sardaigne. Encore une fois, il a côtoyé la souffrance. Après le drame des immigrés à Lampedusa, l'atteinte à la dignité humaine que constitue le chômage à Cagliari. Encore une fois, il a appelé à la solidarité et à plus de fraternité. Se livrant à une critique sévère du système économique mondial, un système idolâtre, injuste, immoral, qui a érigé l'argent en maître et qui pénalise les couches les plus faibles de la société. Ovationné par une foule émue jusqu'aux larmes, le Saint-Père a fustigé les dirigeants politiques qui ne trouvent pas de solution à la crise actuelle. Il a lancé une mise en garde contre les bonimenteurs avides qui promettent des illusions. Mais il a fait plus encore en incitant ses auditeurs à se rebeller contre ce système globalisé qui cause tant de souffrances et à ne pas avoir peur de réclamer du travail à grands cris. Voilà, le pape François a suscité l'enthousiasme de la foule en scandant « travail, travail, travail ». Il faut prier, dit-il, pour le travail c'est la dignité, c'est subvenir aux besoins de sa famille, travailler, cela veut dire aimer. Si le pape François s'est rendu à Cagliari, c'est parce que cette ville a des liens particuliers avec sa ville natale, Buenos Aires. Le nom de la capitale argentine dérive de Notre-Dame de Bonaria. Son nom de baptême, elle le doit à des marins sardes qui, au XVIe siècle, ont voulu justement rendre hommage à leur sainte patronne. Placé sous le signe de la Vierge Marie, ce déplacement aura eu une forte connotation sociale. Le souverain pontife avait d'ailleurs choisi de commencer sa visite par une rencontre avec le monde du travail avant de célébrer la messe sur l'esplanade du sanctuaire de Bonaria face à la mer. Le compte-rendu d'Antoine-Marie Zohar, directeur de l'agence Immédia qui suit le voyage du pape.
Pour la première rencontre de la journée devant le monde du travail, le pape avait préparé un discours percutant. Mais après avoir entendu le témoignage poignant d'un ouvrier au chômage ou encore d'un berger, le pape François a fait une intervention plus forte encore, aux accents parfois personnels. Il a ainsi commencé par confier qu'il avait connu la souffrance liée au manque de travail à travers le récit de ses parents et grands-parents immigrés en Argentine. Puis le pape a établi un lien entre ses deux premières visites pastorales en Italie sur deux îles, à Lampedusa d'abord, début juillet, où il avait vu de près la souffrance des candidats à l'immigration qui débarque sur le continent européen, et puis en Sardaigne, où il est venu dénoncer la souffrance du manque de travail. Là où il n'y a pas de travail, il n'y a pas de dignité, a lancé le pape, salué par les applaudissements nourris d'ouvriers coiffés de casques de chantier, de syndicalistes ou encore de membres d'associations de chômeurs. Puis il a assuré avec force que le chômage était la conséquence d'un choix mondial, d'un système économique au centre duquel se trouve une idole, l'argent. L'homme et la femme doivent être au centre du monde et non l'argent qui commande tout, a martelé le pape, avant de clore cette rencontre émouvante avec une prière encore improvisée. Un peu plus tard, au pied de la statue de Notre-Dame de Bonaria, le pape a confié le monde à la Vierge, notamment les jeunes et les personnes âgées, les malades et les prisonniers, ceux qui ont faim, ceux qui sont sans emploi, les gouvernants et les éducateurs. Devant 100 000 personnes, face à la mer, il a célébré la messe au pied du sanctuaire marial de Bonaria et demandé aux fidèles d'accueillir, d'accompagner, de protéger leurs frères en difficulté, se méfiant des illusions et des fausses promesses qui détournent du regard de Marie. À Cagliari, Antoine-Marie Zohar pour Radio Vatican.
Et à l'occasion de la messe célébrée devant une marée humaine au sanctuaire de Notre-Dame de Bonaria, le pape François a fait le geste de prier en sarde. Plusieurs autres rencontres attendaient le pape François dans l'après-midi avant de regagner Rome dimanche dans la soirée. Le Saint-Père s'est ainsi adressé aux nombreux pauvres et détenus pris en charge par la Caritas diocésaine. Dans son ministère, l'ancien archevêque de Buenos Aires a toujours accordé une large place aux plus démunis, aux laissés pour compte et plus spécialement aux prisonniers. C'est du reste dans une prison pour mineurs, dans un geste sans précédent, qu'il avait célébré la messe du jeudi saint quelques jours après son élection. Hélène Détombe.
C'est dans la cathédrale de Cagliari que le pape François s'est adressé
s'adresser aux pauvres et aux détenus pour leur rappeler que le Seigneur les aime et que tant de personnes de bonne volonté les accompagnent par la prière et les actes, mais aussi pour souligner que la charité n'est pas une forme d'assistanat pour se donner bonne conscience, mais un choix de vie, que l'humilité du Christ n'est pas une idéologie, que Jésus n'est pas venu au monde pour se montrer, pour faire un défilé, mais pour être suivi, y compris dans les vicissitudes, la souffrance et dans les murs d'une prison. Charité, oui, mais pas n'importe laquelle toutefois. Sortant plusieurs fois de son texte et s'exprimant avec passion, le pape François a ainsi relevé que l'on pouvait parfois rencontrer de l'arrogance, y compris dans le service aux pauvres, que des personnes vont jusqu'à instrumentaliser les pauvres pour leurs intérêts personnels ou de leur groupe, ou pour se mettre en avant. C'est un péché, a-t-il lancé avec force, ces gens-là feraient mieux de rester chez eux. Relevant par ailleurs que la société italienne en général, et la Sardaigne en particulier, ont besoin d'espérance, il a souligné que les responsables politiques et civils devaient faire leur part, mais qu'il fallait aussi les soutenir de manière active. Il s'est dit favorable à ce que des catholiques s'engagent dans le champ politique, qui, comme le disait Paul VI, est une forme élevée de la charité. Quant à l'Église, elle doit s'investir dans des œuvres de solidarité en s'efforçant de collaborer avec les institutions publiques dans le respect des compétences de chacun. La force de la communauté chrétienne est de faire grandir la société de l'intérieur comme un levain.
Au moment où ce magazine a été enregistré, le pape devait encore rencontrer le monde de la culture et les jeunes avant de regagner Rome dans la soirée. C'est l'attaque la plus sanglante jamais menée contre des chrétiens au Pakistan. Un double attentat suicide perpétré devant une église ce dimanche à la sortie de la messe a tué des dizaines de personnes et fait de très nombreux blessés. C'est l'église de Tous les Saints qui était visée à Peshawar, la principale ville du nord-ouest du pays, un bastion conservateur de nombreux groupes rebelles islamistes, dont le mouvement des talibans du Pakistan, allié à Al-Qaïda. Les autorités savaient que cette église pouvait être attaquée et affirment avoir déployé spécialement des forces de sécurité autour. Mais cela n'a pas suffi et la colère des chrétiens a explosé dans les rues en même temps que leur douleur. La correspondance d'Emmanuel Derville au Pakistan.
Jamais la communauté chrétienne n'avait connu pareille attaque. Dimanche matin, ils sont des centaines de fidèles à sortir de l'église All Saints à Peshawar. La messe vient de se terminer. Deux kamikazes franchissent alors le portail, traversent la cour et s'approchent de l'entrée principale. Les deux hommes déclenchent leur ceinture d'explosifs en moins d'une minute d'intervalle. Selon le chef de l'unité de déminage de la police, l'explosif utilisé ressemble à du C4, un explosif militaire très puissant. Il était mélangé à des billes d'acier pour tuer le maximum de gens. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais elle porte la signature des groupes terroristes sunnites qui attaquent régulièrement les minorités religieuses au Pakistan. Surtout, le carnage de dimanche met le gouvernement sous pression. Les autorités souhaitent négocier avec les talibans pakistanais. Les insurgés entretiennent pourtant des liens étroits avec les groupes terroristes anti-chiites et anti-chrétiens. Dimanche soir, l'archevêque de Karachi, Joseph Kutz, a demandé au gouvernement de prendre des mesures sérieuses pour endiguer le terrorisme. Islamabad, Emmanuel Derville, Radio Vatican.
Interrogé par nos confrères de la rédaction italienne, le nonce apostolique au Pakistan, Mgr Edgar Peña Parra, a exprimé sa douleur face à ce nouvel acte anti-chrétien. Il attire l'attention sur les souffrances des chrétiens du Pakistan et invite les catholiques à prier pour la paix dans le monde, gravement menacée, comme on peut le voir en Syrie, mais aussi au Kenya et donc au Pakistan. Au Cameroun, les évêques ont adressé une lettre pastorale à leurs fidèles en vue des élections législatives et municipales du 30 septembre afin de leur offrir des pistes de réflexion et éclairer leur conscience. Ils soulignent que la politique doit être au service du bien commun et que le renforcement de la démocratie dépend de la contribution de chacun. Parmi les priorités que les élus devront prendre en compte, les évêques insistent sur l'accès à l'eau potable, la nécessité d'améliorer les soins de santé, surtout en dehors des grandes métropoles, et le renforcement des infrastructures scolaires largement insuffisante, sans oublier l'urgence de logements sociaux pour les plus défavorisés. Brossant un tableau plutôt sombre de la situation actuelle, voire accablant pour l'équipe au pouvoir, les évêques invitent les Camerounais à choisir en leur âme et conscience, car leur choix déterminera l'avenir de la société. Les évêques canadiens, quant à eux, se réunissent en assemblée plénière à partir de lundi au Québec. Ils discuteront de la gouvernance de l'Église, du rôle des évêques en matière de justice, de paix, de charité et de liberté religieuse. Ils ont invité le cardinal hondurien Oscar Maradiaga, président de Caritas Internationalis. Il coordonne le groupe des cardinaux choisis par le pape François pour le conseiller dans son projet de réforme de la curie romaine. Deuxième partie de ce magazine, l'invité de ce dimanche est Stefano Bancalari, chercheur et professeur de philosophie de la religion à l'Université Sapienza à Rome. Interrogé par Catherine Bain, cet éminent et jeune professeur va nous parler de sa passion pour la phénoménologie, qui aide à mieux comprendre la religion, le sacré et l'émotion religieuse. Parmi ses nombreuses publications, il a dirigé la traduction des œuvres de Rudolf Otto.
Stefano Bancalari, vous êtes à Rome, professeur de phénoménologie de la religion. Pouvez-vous nous dire ce qu'est la phénoménologie de la religion ?
On peut partir du mot peut-être phénoménologie. La phénoménologie est un courant philosophique qui a été inventé par Husserl, qui a élaboré cette méthode qu'il a appelé naturellement phénoménologie. C'est une méthode de regarder ce qu'il appelle le « chose même ». La philosophie part toujours de deux idées, des concepts, de théories. Husserl a dit non, il faut avant tout regarder les choses qu'on voit vraiment. Après, on peut faire des théories.
Donc la philosophie, ce n'est pas seulement des idées, mais c'est aussi le concret.
Pas aussi, mais surtout. Surtout les concrets, la réalité, c'est qu'on voit. On n'est jamais sûr qu'on voit vraiment ce qu'on pense de voir. C'est pour cette raison qu'on a besoin d'une méthode pour voir. On pense, oui, mais je vois beaucoup de choses. Par exemple, la religion. Il est évident ce que la religion est, le rapport à Dieu ou le culte, la prière. Pas du tout. Parce qu'il faut avant tout recommencer à penser les concepts qu'on utilise parfois de façon aveugle. Alors, il faut se demander, mais je vois vraiment la religion. La religion, c'est vraiment ça. Alors, il faut s'interroger. Ça, c'est la phénoménologie.
Mais la phénoménologie de la religion. Parce que dans la religion, il y en a qui voient et il y en a d'autres qui ne voient pas.
Oui, naturellement.
Et qu'est-ce que l'on voit dans la religion ?
On a beaucoup de phénoménologues de la religion. Par exemple, l'un des plus importants, c'est Rudolf Otto, un philosophe allemand, qui a répondu très simplement, on voit le sacré. Selon Otto, le sacré, c'est le centre, le cœur de toute religion. Ce n'est pas une idée, un concept, ce n'est pas une théorie, mais c'est une expérience. L'homme, c'est l'animal qui peut éprouver le sacré. Comment on peut éprouver le sacré ? C'est l'expérience de ce qu'il appelle le lumineux, un mot qui vient du latin, noumen, c'est une divinité, ce n'est pas naturellement Dieu. Alors, l'expérience du lumineux, c'est l'expérience de l'homme face à ce qu'il ne comprend absolument pas, mais à ce qui l'attire. C'est une expérience d'une contradiction. C'est pour cette raison que Rudolf Otto parle du tout autre. Tout autre par rapport à ce qui nous, normalement, dans ce qui nous faisons l'expérience. Alors, le tout autre, c'est un concept qui peut être traduit dans une façon plus simple comme sacré. C'est une expérience. Je crois que cette idée, qu'on peut parler vraiment de ce qu'on a éprouvé, c'est vraiment une grande idée pour la religion, pour la compréhension de la religion aujourd'hui.
Et la place de l'émotion, où est-elle ?
L'émotion, il faut l'entendre au sens phénoménologique, naturellement. Émotion, c'est ce qu'on reçoit. On a une passivité, on s'arrête. Alors, c'est quelque chose qui me vient et que je ne construis pas, que je ne peux pas comprendre au moins immédiatement, face à laquelle je dois m'arrêter, interrompre ce que je fais. Alors, l'émotion, c'est une sorte d'expérience de la limite, de l'impossibilité, qui naturellement n'est pas seulement négatif.
Comment vous êtes orienté vers la phénoménologie de la religion ?
Parce que la phénoménologie, c'est une méthode, je le dis, de regarder les choses et d'élargir notre horizon. Parce que regarder les choses, c'est pas facile et j'ai découvert qu'il faut toujours élargir l'horizon du regard. C'est une combinaison vraiment intéressante et parfaite pour abandonner son propre point de vue. J'ai fait l'expérience que le point de vue nous limite, nous rend impossible de voir au-delà de notre nez. Alors, la phénoménologie, aidée par la religion, par les questionnements religieux, peut vraiment nous aider à mettre en parenthèse notre conviction, notre opinion, pour se rendre à ce qui vraiment se montre. Même Dieu.
Alors vous dites mettre entre parenthèses ses convictions. Est-ce que ce n'est pas le but de tout intellectuel et peut-être aussi de l'intellectuel catholique?
Oui, naturellement, mais ce n'est pas toujours très conscient en tant que but. Normalement, on comprend l'expérience philosophique et religieuse comme une apologétique, on pourrait dire. Ça, c'est exactement le contraire de ce que je pense. L'apologétique, c'est la défense des propres opinions, des propres convictions. Ce n'est pas la disponibilité à recevoir quelque chose. Alors, en ce sens, on pourrait dire que la phénoménologie de la religion, c'est se rendre disponible, que selon moi, c'est vraiment le noyau de l'expérience religieuse. Découvrir ce qu'on ne connaît pas.
Être en état de disponibilité, en état d'accueil.
D'accueil, exactement. Et notre monde religieux ou non religieux au sens normal du terme, est exactement dans la position contraire. Et il faut toujours argumenter, défendre ses positions, mais pas se rendre à la manifestation. C'est une attitude complètement contraire et en ce sens, je trouve que la phénoménologie et la religion vont dans la même direction.
Est-ce qu'au cours de votre parcours, Stefano Bancalari, vous avez rencontré des personnes qui ont pour vous été des phares, des lumières et qui vous ont permis de creuser cette découverte?
Oui, je pense que l'expérience véritable du sacré, c'est l'expérience du rencontre. On ne peut pas rencontrer quelque chose de véritablement lumineux si on ne rencontre pas quelqu'un qui le porte. Par exemple, le rapport le plus important pour moi, c'est le rapport que j'ai eu avec mon professeur qui s'appelle Marco Maria Olivetti, qui a enseigné philosophie de la religion à l'Université de Rome La Sapienza. Et quand j'écoutais ses cours, c'était pour moi vraiment une expérience du lumineux. Et à travers ces mots, on pouvait entrevoir quelque chose d'autre. Il ne parlait naturellement jamais de foi et de sa foi. On pouvait la deviner à travers son rigueur et sa capacité de nous faire passionner à la philosophie en tant que telle.
Vous employez justement le mot de foi, Stefano Bancalari. Oui. Nous ne l'avons pas encore entendu. Vous avez parlé de religion, religion et foi. Quel est le lien?
C'est pas par hasard que je n'ai pas parlé de foi jusqu'à ce moment, parce que je crois que la foi est quelque chose qui nous porte au dehors, mais nous porte au dehors de l'attitude scientifique qui est propre de la philosophie. La foi, c'est un engagement personnel qui a une relation, selon moi, pas définissable a priori avec la philosophie. La foi implique la personne, et la personne n'est pas compréhensible à l'intérieur d'un discours philosophique. Alors, les deux choses, la philosophie et la foi, ont naturellement une relation qui est dans la personne. Mais je ne peux pas dire ni que la philosophie porte à la foi, ni que la philosophie ne porte pas à la foi. Il faut laisser libre la philosophie et la foi de se confronter dans la personne. Mais on ne peut pas faire une théorie sur ça, selon moi, naturellement.
Stefano Bancalari, vous êtes professeur et vous avez des dizaines, voire des centaines d'étudiants à qui vous enseignez. Qu'est-ce que vous aimeriez que vos étudiants retiennent suite à vos cours?
Je voudrais dire deux mots, passion et rigueur. La passion de la recherche et le rigueur. La chose la plus difficile pour moi, c'est de convaincre les étudiants à jouer un jeu qu'ils ne peuvent pas jouer d'abord, à apprenez les règles d'un jeu différent et à traduire leur passion dans la rigueur. Alors, je crois que passion de la recherche, de la question et rigueur de la recherche sont les deux mots qui sont pour moi les plus importants.
Et à l'intérieur de votre enseignement, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent sur la phénoménologie de la religion?
La capacité d'accomplir le geste fondamental de la phénoménologie, la capacité de se suspendre pour s'ouvrir.
Merci Stefano Bancalari.
Et c'est sur cet entretien avec le professeur Bancalari que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Mais je vous invite à nous retrouver sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Bonne semaine à tous.